Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Gros plan ce soir sur la robotisation. Il y a quelques années, deux chercheurs d'Oxford avaient fait sensation en estimant que l'automatisation allait présenter un risque pour 47% des emplois aux États-Unis. Depuis, les études se sont multipliées. Elles ne disent pas toutes la même chose. Exemple, au mois de janvier, il y a un mois donc, le Conseil d'orientation pour l'emploi estimait que seuls 10% des emplois français seraient vulnérables aux nouvelles technologies. Ce qui est sûr, c'est que la campagne présidentielle française, en tout cas à gauche, s'est en partie structurée autour de ce sujet à travers la candidature de Benoît Hamon qui considère que la robotisation va bien aboutir à une raréfaction du travail et qui en fait un argument pour la mise en place d'un revenu universel financé en partie par une taxe sur ces mêmes robots. Car pour lui, si demain une machine remplace un homme et crée de la richesse, eh bien il est normal qu'elle cotise. C'est ce qu'il a expliqué, citant notamment l'exemple des portiques remplaçant les caissières dans les grandes surfaces. Une idée qui a un soutien de taille, Bill Gates, on va sans doute y revenir, mais qui a aussi ses détracteurs, nous le verrons. Deux sont avec moi en studio. Les robots vont-ils nous mettre au chômage? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Deux sont à mes côtés en studio. Jean Tournoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général du CIMOP, le syndicat des machines et technologies de production. Nicolas Leroux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de projet à France Stratégie, au département Travail, Emploi et Compétences. Et puis, un troisième invité est avec nous par téléphone. Paul Jorion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, sociologue et par ailleurs professeur à l'Université catholique de Lille. Paul Jorion, je voudrais commencer avec vous. Est-ce que vous partagez le constat de Benoît Hamon, celui des deux chercheurs d'Oxford dont je parlais dans l'introduction? Est-ce que pour vous, la robotisation menace des emplois?
Oui, bien entendu. Les chiffres qui sont produits dans des études faites dans différents pays sont légèrement différents, mais la fourchette à une échéance de 20 ans, c'est entre 40 et 60, peut-être même 70% des emplois qui sont menacés, pas simplement par des robots, mais surtout par des logiciels, des algorithmes, par l'émergence de l'intelligence artificielle. Ces chiffres sont des chiffres fiables.
Est-ce que vous reprendriez cette formule qui a beaucoup circulé ces dernières années d'un chômage à venir technologique massif, d'après les chiffres que vous nous donnez, 40, 60, 70%, vous allez me répondre oui?
Oui, bien entendu. Et déjà, John Maynard Keynes, dans les années 30, voyait cela se développer à l'horizon. C'est bien entendu. On nous parle souvent que quand les emplois disparaissent, ils seront remplacés par d'autres emplois en même nombre. Mais il n'y a que quelques cas dans les années 50 et 60 où ça s'est vérifié. Ce n'est pas une loi générale. Il n'y a pas de loi qui dise que quand les emplois disparaissent, ils seront automatiquement remplacés par des emplois en même nombre.
Alors, Jean Tournoux, je rappelle que vous présidez donc le syndicat des machines et technologies de production. Qu'est-ce que vous répondez à Paul Jorion?
D'abord, je dirais que sur la thèse, maintenant, il y a une affirmation qui dit que dans 20 ans, 70% des emplois vont être transformés, voire supprimés. Et ça, c'est de la prospective. Alors même que dans le passé, vous venez de dire, Monsieur Jorion, que finalement, il n'y a qu'au cours des 30 dernières années qu'on a vu appliquer ce théorème. Alors, pourquoi? C'est donc ce que vous dites me paraît, dans la prospective, pas du tout réaliste. Il n'y a rien qui le démontre de fait. D'ailleurs, c'est même les exemples qu'on a montrent tout à fait le contraire. Prenons juste un petit exemple avec les voitures à chevaux au début du siècle. Tout ça a été transformé par l'automobile, on a créé des emplois. Je vous parle même pas de l'agriculture. Donc, les prospectives, vous estimez qu'elles sont vraies, et la réalité, vous estimez qu'elle est fausse. Donc, je m'interroge sur ces affirmations.
Monsieur, vous défendez une industrie qui est en difficulté, c'est tout.
Alors, on va peut-être écouter, avant de redonner la parole à Paul Jorion, la réaction d'abord de Nicolas Leroux. Est-ce que pour vous, les progrès du numérique annoncent une grande vague de chômage technologique?
Donc, effectivement, c'est une question ancienne. Et le fait de savoir si le progrès technologique va alimenter un chômage technologique massif, c'est une question qu'on a déjà entendue au cours des décennies passées, même des siècles passés. Après, je pense que sur le débat, il faut arriver à distinguer deux choses. C'est la destruction des emplois, d'une part, et deuxièmement, c'est la transformation des emplois. Pour ce qui est de la destruction des emplois, effectivement, initialement, l'étude des deux chercheurs américains avait une conclusion qui était finalement assez alarmiste, puisque c'était, comme vous l'avez dit, près d'un emploi sur deux avait un risque élevé d'être automatisé à l'horizon d'une décennie ou deux. Après, d'autres études ont répliqué ce travail des deux chercheurs et le cabinet Roland Berger a trouvé 42% pour la France. Au Japon, on arrive à 49%.
Mais donc, vous êtes tous les trois d'accord pour dire qu'effectivement, les prospectives disent qu'il y a un grand risque.
Dans un premier temps, c'était la conclusion de beaucoup d'études. Après, d'autres études, donc à France Stratégie, nous avons publié une note sur l'effet de l'automatisation sur l'emploi. L'OCDE a également publié quelque chose, le Conseil d'orientation pour l'emploi également. Et là, les conclusions sont beaucoup moins alarmistes pour ce qui est des destructions d'emplois. À France Stratégie, nous obtenons un chiffre de 15% des emplois qui seraient menacés, enfin particulièrement menacés par l'automatisation et les nouvelles technologies. L'OCDE arrive à 10% pour la France, le COE près de 10%. Donc là, pour ce qui est des destructions d'emplois, on voit que l'étude des deux chercheurs avait des limites. Des études ont essayé d'améliorer la méthodologie. Et pour ce qui est des destructions d'emplois, le consensus, en tout cas certaines études, arrivent à un consensus de 10%. Et par contre, on obtient, quand on regarde les transformations d'emplois, on est d'accord souvent que près d'un tiers ou la moitié des emplois seront transformés par les nouvelles technologies. Mais ce point-là aussi, on l'a vu par le passé.
Alors, je voulais juste soumettre un contre-argument un petit peu à Paul Jorion. Il y a des pays qui sont très robotisés, en tout cas plus que la France. Alors, on cite souvent l'Allemagne, on cite aussi le cas de la Corée ou de la Suisse, qui affichent un chômage très bas. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument, Paul Jorion ?
Je réponds d'abord que l'Allemagne n'est pas du tout très robotisée. Elle est très très peu robotisée et la France aussi. Donc quand on compare des chiffres entre l'Allemagne et la France, ça n'a aucun sens. Il faudrait les comparer à ceux de pays qui sont effectivement très robotisés. Monsieur Tournoux nous dit qu'il représente une industrie qui préfère recevoir des subventions plutôt que d'être taxé. C'est vrai pour toute industrie, tout secteur dira cela. On préfère recevoir des subventions plutôt que d'être taxé. Quant à M. Nicolas Leroux, il a fait une enquête en demandant aux personnes « Est-ce que vous croyez que vous allez être remplacé ?» en leur posant deux questions. Est-ce qu'il faut parfois répondre de manière immédiate à un problème qui se pose ? Et l'autre question, est-ce qu'il faut parfois s'adapter parce qu'il faut changer un petit peu les règles pour s'adapter à ça ? Or, ça n'a aucun rapport avec la question qui est posée. Les ordinateurs réagissent, ils peuvent faire des opérations, 2000 opérations à la seconde. Les ordinateurs depuis les années 60, même les années 70, utilisent la logique floue, utilisent les algorithmes génétiques, ils peuvent répondre à une nouvelle situation. Ça n'a pas de sens de demander de savoir si les emplois vont disparaître en posant la question aux gens est-ce que vous êtes remplacé par un robot alors que ces gens n'ont aucune notion de robotique.
Bon alors je crois que là-dessus on a bien compris que vous êtes tous les trois pas d'accord, je voudrais qu'on avance un petit peu, plus que la quantité d'emplois qui va être impactée par la robotisation, est-ce que c'est pas la capacité de la robotisation à créer d'autres emplois qui interroge plus particulièrement Jean Tournoux.
C'est sûr, là, parce que les chiffres qu'on a sous les yeux, c'est dans 20 ans. Enfin, l'informatique, elle date d'il y a 50 ou 55 ans maintenant à grande échelle et on n'a pas vu les phénomènes qui sont décrits. Donc tout à coup, il y aura un phénomène d'accélération vraiment extraordinaire. Donc oui, il y aura des emplois qui se transforment, comme ça a toujours été.
Alors, lesquels, par exemple, pour être concret pour nos auditeurs, lesquels vont
disparaître ? Les emplois industriels, certains emplois d'opérateurs, bien sûr, certains emplois de services aussi, voire même certains emplois intellectuel ou de support intellectuel. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des capacités de recherche pour la documentation qui ont fait que, évidemment, ça va plus vite qu'hier. Mais tout ça n'implique pas nécessairement que les emplois vont disparaître. D'autres besoins émergent grâce au ciel. On peut parler de la santé, l'accès à l'eau, donc même la transition énergétique. Donc devant nous, on n'a que des potentiels en fait. Hein. Donc oui, il y a des changements qui s'opèrent sous l'impulsion de la technologie. Une industrie d'ailleurs, contrairement à ce que vous dites Monsieur Jorion, elle n'est pas subventionnée, hein, elle travaille activement pour cette transformation. Et donc il y a des choses devant nous de progrès et on a beaucoup de choses à faire avec les nouvelles technologies, les emplois vont se transformer et la vraie question c'est comment fait-on pour gérer cette transition notamment
en termes de formation. Et c'est comment la robotisation va aussi modifier la structure de l'emploi. Là-dessus Nicolas Leroux, est-ce que vous avez travaillé sur cette nouvelle structure, cette structure à venir dans l'emploi, qu'est-ce qu'on peut imaginer ?
Effectivement, on a essayé de réfléchir à cette question, mais tout d'abord la difficulté, donc c'est de la prospective, mais surtout quand on regarde des exemples très concrets, des métiers très concrets, on voit que ce n'est pas parce qu'une technologie existe qu'elle va être appliquée. Et donc ce n'est pas parce qu'un emploi est automatique.
Exemple, parce que là,
par exemple, les caissiers. Les caissiers dans la grande distribution. En France, la première caisse automatique, elle remonte à 2004. Donc, quand on regarde l'évolution du nombre de caissiers depuis 2004, on voit que l'emploi des caissiers a diminué de 10%. Alors que dans le même temps, il y a eu beaucoup d'autres transformations dans cette industrie et dans les caisses, dans la grande distribution. Donc on voit qu'il est techniquement possible de remplacer tous les caissiers
dans
la grande
distribution. Mais alors pourquoi
est-ce qu'on le fait pas ? Parce qu'il y a des freins. Il y a des freins culturels, il y a l'acceptabilité sociale, il y a également des questions d'organisation du travail, et il faut aussi que ce soit rentable pour les entreprises.
Des questions économiques, bien
voilà,
sûr,
hein. Des questions économiques.
Juste d'ailleurs, à ce propos, sur l'Allemagne n'est pas un pays robotisé par rapport à la France, c'est faux. Hein. Enfin,
Automobile, notamment.
Non, mais dans l'industrie automobile, la France et l'Allemagne sont équivalents. C'est dans le reste de l'industrie où la France représente qu'un tiers, voire un quart des robots en Allemagne. Donc effectivement, vous aviez raison de poser le point tout à l'heure. Oui, c'est vrai que l'Allemagne a plus d'emplois industriels que la France. Donc j'aimerais bien qu'on me donne une raison. Et moi, je fais pas de la prospective, je suis dans le réel. Hein. Donc je constate que les robots, en l'occurrence, génèrent de l'emploi et n'en détruisent pas.
Alors Paul Jorion, je crois savoir que vous voulez réagir.
Ben oui, bien sûr. Bon, la compagnie Amazon teste en ce moment un magasin dans lequel il n'y aura pas le moindre être humain, dans lequel on entre, on montre sa identité par son smartphone, on achète des choses et puis on les a à la caisse. C'est une économie, ça va être une économie extraordinaire. Ça va, si une entreprise en France, je ne sais pas si Hypermarché, si Peru, etc. le fait, les autres vont devoir s'aligner. C'est 230 000 emplois qui disparaissent du jour au lendemain. On a fait une étude aux États-Unis. Combien de gens vont pouvoir se reconvertir justement dans l'entretien des robots, l'entretien des logiciels, faire de la programmation? 1,8 million de personnes dans les années à venir. 1,8 million de personnes, c'est un nombre considérable. Ça ne représente encore que 2% de la main-d'œuvre aux États-Unis. Autre question. On nous dit, on a déjà vu, les gens sont passés de l'industrie au service. Le problème de la conversion. Quand on convertit une personne qui vient du domaine industriel, qui travaille en usine, à travailler dans les services, la formation, c'est quelques semaines, à maximum quelques mois. Si on veut convertir des gens qui viennent du domaine des services pour devenir des gens qui font de la maintenance informatique, qui font de la programmation, c'est plusieurs années de formation qui
sont nécessaires. Alors, Jean Tournoux, là, on touche du doigt un thème important, celui de la formation.
Ben oui.
S'il y a mutation du travail, il va falloir former. Aujourd'hui, on sait que le système de formation
sur Amazon,
en France n'est
hein,
pas forcément le meilleur.
Oui, je reviens sur Amazon. Hein. J'ai travaillé dans une entreprise qui a installé son premier magasin automatisé en 1975. Hein. Donc ça date pas d'hier du fait qu'il y ait personne dans les magasins pour aller prendre les pièces. Donc oui, Amazon fait son boulot, c'est tout. Hein. Donc il y a aucune surprise là-dedans. Quant à la transformation des emplois et à la formation, oui, ça c'est un enjeu. Il faut donc travailler d'une façon profonde à cette mutation des emplois, que ça soit dans l'industrie ou dans d'autres secteurs d'ailleurs. C'est vrai qu'on ne transforme pas les emplois en quelques semaines. Donc,
là-dessus,
cet enjeu
vous êtes
est un enjeu
d'accord
réel.
Avec Paul Jorion. On aura réussi à trouver un point d'accord.
Justement, ça explique pourquoi on nous dit que 70% des emplois vont disparaître. Mais il faut voir à quelle vitesse on est en train de mettre en œuvre ces changements. On vient d'avoir un exemple sur les caisses automatiques. On s'aperçoit que tout ça, c'est très lent. Donc, nous avons le temps d'assurer la transformation des compétences et des savoir-faire des hommes et des femmes pour les adapter aux technologies qui sont émergentes.
Vous êtes d'accord, Nicolas Leroux? On a le temps de s'adapter à ce qui est en train d'arriver ?
Ça va dépendre à quelle échelle on regarde. Quand on regarde localement, effectivement, localement, on peut imaginer qu'une entreprise ferme parce qu'il y a une concurrence très forte sur le moment et donc qui est localement des pertes d'emplois et donc des pertes de compétences assez élevées. Après, concrètement, il va falloir arriver à adresser des politiques publiques pour accompagner, former ces personnes. Après, quand on regarde à un niveau plus général et macroéconomique, on voit les deux risques. Donc, c'est le local et c'est aussi le risque d'une polarisation des emplois avec la robotique. C'est-à-dire que finalement, les seuls emplois qui resteraient, ce seraient soit des emplois très qualifiés, pour les gens très diplômés.
Et encore maintenant, on dit les journalistes,
exactement,
les professions intellectuelles, les robots progressent aussi très très vite et pourraient remplacer des journalistes.
Hein. Encore plus qualifiés, si on peut dire, que pour ces métiers. Donc une polarisation vraiment très extrême avec des emplois très très qualifiés et à l'opposé des emplois qui seraient très très peu qualifiés, pour lesquels on pourrait même dire que c'est peu rentable d'automatiser. Et voilà, donc il y a un risque, il y a une polarisation des emplois, et donc que des personnes n'aient pas les formations et n'arrivent pas à trouver leur place sur le marché du travail. Mais ça prendra, pour le moment, on observe un peu ce phénomène aux États-Unis. Pour le moment, le phénomène de polarisation est très peu visible en France.
Alors Paul Jorion, attendez, je voudrais demander à Paul Jorion, parce que le temps passe, il ne reste plus que 4 minutes. Je voulais vous poser quand même la question de la fameuse taxation sur les robots, qui est donc l'une des propositions de Benoît Hamon. Est-ce que vous, qui craignez cette robotisation qui est en marche, est-ce que vous êtes favorable à une taxation des robots, considérant qu'il faut qu'ils cotisent parce que finalement ils sont des travailleurs?
Oui, bien sûr, mais je crois que tout le monde sait que je suis à l'origine de cette proposition. Mais c'est pas parce que je suis contre la robotisation, c'est simplement parce que je m'oppose à la manière tout à fait inégalitaire dont les revenus, la productivité des robots est partagée dans nos sociétés. La personne qui est remplacée dans son travail par un logiciel, par un robot, cette personne ne bénéficie absolument pas du fait qu'elle a été remplacée. C'est ça le problème. Il faut redistribuer la richesse créée par un robot de la même manière que nous distribuons la richesse créée par une personne quand elle travaillait, il faut la redistribuer exactement de la même manière. En fait, ce n'est pas du tout une nouvelle logique, c'est simplement étendre la logique de l'homme à la machine quand l'homme est remplacé par la machine. Ça n'a rien de neuf en réalité.
Et là-dessus, vous avez en plus un soutien de taille, celui de Bill Gates, hein, c'est ce que je disais au début. Alors je vois Nicolas Leroux, vous faites nom de la tête, vous n'êtes pas d'accord, la taxation des robots, mauvaise idée?
On n'a pas étudié encore ce phénomène de taxation des robots, mais si on revient au début, il y a la destruction des emplois, mais aussi la transformation des emplois. Et on voit que c'est massivement plutôt une transformation des emplois, que les robots sont complémentaires à de nombreux emplois. Ils permettent de se délester de certaines tâches que les robots...
Oui, mais vous parliez tout à l'heure du niveau micro. Si effectivement on a chez Amazon, est-ce qu'on ne doit pas taxer les robots qui remplacent des travailleurs?
Justement, les robots, c'est un peu la tête de Turc, si je puis dire, du progrès finalement. Mais moi, je propose plutôt qu'on taxe le clic de la personne qui achète sur Internet sans passer par la caisse. Parce que du coup, là, je suis certain qu'il n'y a pas de caissière. Donc, la délimitation de cette pseudo-taxe, de cette taxe sur le progrès, en fait, technologique, je ne vois pas ce qu'elle amène. Le progrès technologique amène la productivité qui est nécessaire à l'amélioration du bien-être des hommes.
Donc vous, et ça, c'est grâce au lieu de taxer les robots, vous dites plutôt il faut
plutôt
investir dans la robotisation.
Hein, parce que c'est ça, sur le long terme, qui assure le bien-être à l'humanité.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Leroux? Je vous ai coupé tout à l'heure, la taxation des robots.
Sur la fiscalité, concrètement, c'est un taux et une assiette. La fiscalité, après, va se poser la question de quelle est l'assiette taxable si ce sont massivement des transformations de l'emploi. Et les robots, donc on pense tout de suite aux destructions, mais il y a beaucoup de robots qui sont collaboratifs, qui arrivent désormais à travailler, à s'intégrer davantage dans le monde du travail et être complémentaires avec les travailleurs. Et donc là, se posera des questions.
Donc vous n'êtes pas opposé au principe de la taxation des robots. Vous dites, attention, ça dépend quelle assiette. C'est comme n'importe quel impôt finalement.
Sur ce point, on l'a pas étudié clairement, cette proposition qui est quand même très récente avec Benoît Hamon et le soutien
de
Bill Gates qui peut apparaître étonnant maintenant.
Ce soir, mais c'est quand même pas n'importe quel entrepreneur.
On taxe Windows 10 qui a supprimé toutes les secrétaires. Enfin, donc, c'est de quoi parle-t-on? L'ensemble des moyens mis en œuvre dans tous les processus qui permettent d'améliorer la productivité et pas que, aussi les conditions de travail de l'ensemble de la population, je vois pas pourquoi on taxerait l'ensemble de ces équipements. Il faut trouver d'autres idées si jamais on a d'autres soucis. D'ailleurs, je vous signale que c'est qu'en France que cette question se pose, enfin qu'en France, en tout cas, elle se pose pas dans les pays
du Nord. Oui, mais ça, c'est pas un argument. La Sécu, c'était qu'en France.
Non, mais c'est pas ça. C'est que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut, c'est travailler sur les questions qu'on a abordées tout à l'heure, sur la formation et la création de richesses, et non pas taxer les robots qui sont la source de tous nos maux.
Paul Jorion, je sais que vous voulez réagir, vous aurez le mot de la fin.
D'accord. Mais effectivement, on ne peut pas nous dire qu'il ne s'agit que de la France quand M. Bill Gates vient de faire une déclaration là-dessus. Il y a la chose qu'on oublie, c'est que pour qu'une économie fonctionne, il faut aussi qu'il y ait un pouvoir d'achat chez les gens. Si les gens, on les renvoie simplement à la maison en disant il y a un robot qui vous a remplacé et qui va produire des dividendes supplémentaires et des bonus supplémentaires pour les dirigeants d'entreprise, il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus de demande dans la population. Il faut qu'on pense à cela et pour ça, il faut que le progrès de la mécanisation, qui est un progrès de civilisation pour l'ensemble du genre humain, que tout le monde en bénéficie,
Merci. Et
pas simplement ceux qui ont des sommes considérables en capital.
Merci beaucoup Paul Jorion, merci également à Jean Tournoux et à Nicolas Leroux qui sont à mes côtés en studio. Merci à Florence Ponce, à Quentin Bresson. On se retrouve demain pour le dernier débat de la semaine. À demain.
RFI.